je suis allé dans Google et puis j'ai tapé développeur freelance je sais pas, dans Normandie, Cotentin. Je crois que c'est plutôt Sylvain qui a eu l'idée. C'est plutôt lui qui a perçu l'intérêt de créer un Slack. Moi, j'ai eu un gros problème de positionnement au départ. Les échanges qu'on a eus dans ce groupe-là, ça m'a pas mal aidé là-dessus. Et il y a aussi des projets sur lesquels on travaille à deux. Moi, je travaille avec Michael sur un projet pour un client. Et puis, je travaille évidemment avec Alexis sur d'autres projets. Donc, on a aussi des trucs qu'on prend à plusieurs.
Vous êtes en train d'écouter La Cohorte, le podcast des freelances passionnés et qui ont en permanence 10 000 questions qui tournent dans leur tête. Et moi, je suis Marine, une freelance accro à son mode de vie et qui adore discuter avec d'autres freelances. D'ailleurs, j'ai constaté qu'en partageant nos expériences, on y voit beaucoup plus clair et on accélère le développement de nos petites entreprises. Alors, je vous donne rendez-vous un jeudi sur deux pour décortiquer les stratégies de freelance qui ont trouvé des réponses originales à des questions qu'on se pose tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression qu'entreprendre en indépendant rend complètement zinzin. On est seul aux commandes de nos boîtes, ce qui fait que dans une même journée, on change 10 fois de rôle. Le matin, on est chargé de la communication, ensuite, on est directrice ou directeur commercial, à la pause déj, on s'occupe des relations publiques, après, on enfile la tenue de responsable de production, sans transition, on passe au marketing. Et dès qu'on a 5 minutes, on monte au dernier étage pour s'installer derrière le bureau du Big Boss. Et comme si cela ne suffisait pas à retourner nos cerveaux, travailler seul pousse aussi à se poser des tonnes de questions qu'on ne se posait pas, ou en tout cas beaucoup moins, dans nos vies d'avant. Est-ce que j'ai le bon état d'esprit pour réussir? Comment ai-je envie d'être perçu par mes prospects et mes clients? Quels sont mes objectifs perso? Quels sont mes objectifs pro? Pourquoi je fais tout ça finalement? D'un côté, c'est génial parce qu'on progresse à la vitesse de la lumière dans toutes les dimensions de nos vies. Mais de l'autre, il faut bien le reconnaître, c'est épuisant. Et c'est même très éprouvant car tous les jours, on est confronté à nos limites et on doit gérer seul nos doutes. Heureusement, il y a un moyen ultra efficace pour sortir de notre bulle et retrouver un peu de légèreté. C'est d'échanger avec des consoeurs et des confrères freelance avec qui on a noué des liens forts. Depuis le lancement du podcast, on a déjà exploré plusieurs façons de collaborer entre indépendants. Avec Sophie, Blandine, Claire, Charlotte, on a parlé de collectifs et même de méta-collectifs, de groupes de discussion en ligne et de binômes de freelance. Aujourd'hui, avec Hervé, je vous propose de découvrir une nouvelle forme de partenariat que j'ai appelé le gang de freelance. Un gang de freelance, c'est un petit groupe de moins de 10 indépendants aux compétences complémentaires, avec ses propres règles de fonctionnement. Les membres du gang s'entraident, ils s'apportent du business, mais continuent à développer leurs entreprises chacun de leur côté. Hervé est développeur spécialisé dans les logiciels SaaS pour les entreprises. Il s'est lancé en indépendant après 20 ans de salariat dans des grosses boîtes. Et un de ses premiers projets d'entrepreneur a été de créer son petit gang. Dans son interview, il explique comment il a réussi à constituer ce groupe alors qu'il ne connaissait aucun freelance. Il raconte aussi comment il est parvenu à créer la dynamique qui permet à son gang de durer. Et bien sûr, il décrit tout ce que ces échanges lui apportent et comment chacun y trouve son compte. Bon, inutile de vous faire attendre plus, on y va. Hervé, dans ta vie pro d'avant, tu étais très entouré. Alors, quand tu t'es lancé en freelance il y a 2 ans et demi, tu savais que ça allait être différent. Mais est-ce que tu t'attendais à te sentir aussi isolé?
Isolé, je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Le projet entrepreneurial d'un freelance, forcément, ça démarre tout seul. Je me doutais que c'était un peu personnel et que ça allait être une ambiance différente de celle que j'avais connue. Et j'ai vite identifié que ce serait quand même important de pouvoir échanger un peu au quotidien avec d'autres personnes qui ont un peu le même parcours que le mien.
Et ça, tu t'en es rendu compte dès que tu t'es lancé ou c'est un peu plus tard que tu t'es dit « Tiens, en fait, ça, ces discussions, ça me manque ?»
Non, c'est dès le début en fait. Quand tu passes d'une ambiance où c'est un peu une fourmilière dans une entreprise à un travail 100% à la maison ou en détachement ponctuel chez des clients, tu sens quand même une différence d'ambiance et tu ressens donc vite cette absence des échanges, des sollicitations un peu temps réel que tu avais dans ton poste précédent.
Donc très vite, tu t'es dit, il faut que je rencontre d'autres freelances.
Ouais, j'avais envie de travailler avec d'autres freelances et puis j'avais aussi envie d'avoir un peu leur expérience, quoi. Savoir comment eux, ils avaient commencé, comment ils s'y prenaient pour trouver des clients. Parce que c'est au cours de ces discussions et ces échanges, en fait, qu'on a des bons conseils sur son évolution professionnelle, en fait. Je trouvais que les discussions qu'on peut avoir avec ses pairs, moi, ça m'apportait quand même plus de valeur que de lire un bouquin.
Alors comment tu t'y es pris? Parce que tu habites dans le Cotentin. Alors moi j'ai une vision assez parisienne de tout ça. À Paris, c'est plutôt simple de rencontrer d'autres freelances. Il y a des espaces de coworking, il y a plein d'événements qui sont organisés par et pour des freelances. Mais dans ton coin à toi, j'imagine que c'est pas tout à fait la même chose. Comment t'as fait?
C'est vrai, moi j'ai vécu une quinzaine d'années en région parisienne, donc je vois à peu près la différence et les moindres opportunités qui existent hein, pour faire des meet-ups, pour rencontrer d'autres personnes. Ceci dit, en ce moment, je pense que ça doit pas être très, enfin ça doit faire un an que ça doit pas être non plus très très simple de rencontrer plein de gens dans des espaces de coworking ou dans des meet-ups. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, dans le Cotentin ou ailleurs d'ailleurs. Moi, j'ai juste organisé un meet-up dans ma région. J'ai pris un peu la liste de tous ceux que je pouvais trouver en faisant des requêtes Google, la liste de tous ceux qui travaillaient un peu dans la tech dans la région. Et je leur ai tous envoyé un mail. J'ai dû envoyer, je sais pas, 50, 60 mails pour leur proposer de se rencontrer et puis de discuter un peu de nos métiers et puis des opportunités ou du contexte pro qu'il y avait dans la région. Et puis j'ai aussi lancé quelques bouteilles à la mer sur des forums de discussion, sur le Slack de Comet, des lieux un peu comme ça, un peu fréquentés par des freelances. J'ai eu quelques réponses et ça m'a permis de monter un premier meet-up. On est allé, voilà, j'ai loué un petit truc et puis on s'est rencontrés peut-être 2 mois, 1 mois ou 2 après mes débuts. Et ça m'a permis de faire connaissance un peu avec les freelances qui travaillaient dans le domaine de la tech ou de la data autour. Alors c'est sûr qu'on n'était pas 300, on était moins d'une dizaine à se rencontrer, mais ça a permis d'amorcer un premier contact.
Alors, attends. Quand tu as fait tes recherches, t'as été sur LinkedIn, comment tu t'y es pris très concrètement?
Non, je suis allé dans Google et puis j'ai tapé développeur freelance, je sais pas, dans Normandie, Cotentin, etc. J'ai cherché des boîtes qui travaillaient dans la tech ou de la data. J'ai cherché des freelances, j'ai cherché sur des plateformes comme Malte ou des choses comme ça. Mais j'ai utilisé aussi LinkedIn et ça m'a permis de faire une petite liste de tous ceux qui avaient un peu le même profil ou qui travaillaient un peu dans le même secteur que le mien à proximité.
Et alors, ce meet-up, comment ça s'est passé? C'était sympa, il y avait une bonne ambiance?
Bah, c'était un peu décevant par rapport à ce que j'en attendais. En fait, il y avait plus de curiosité de voir un peu quelles étaient les personnes, qui étaient ce nouvel entrant. Et finalement, les échanges, ça a eu du mal à démarrer. Mais ensuite, ça a permis d'avoir un dialogue et puis de casser un peu la glace, de rencontrer des personnes qui étaient expérimentées, et qui connaissaient bien déjà l'environnement business de la région. Mais en fait, ça m'a pas donné envie de poursuivre ça de façon régulière. Ça m'a plutôt donné envie de concrétiser le lien avec certaines personnes, pas en faisant des meet-ups qui soient ouverts, mais plutôt en créant une petite communauté plus restreinte, mais plus soudée et plus pérenne.
Et est-ce que tu avais l'habitude d'organiser des rencontres comme ça et de networker ou c'était un truc complètement nouveau pour toi?
Non, c'était nouveau. Mais après, c'est pas très compliqué. Quand t'as rien à vendre, au final, t'as juste envie de discuter. L'approche des personnes qui reçoivent ton mail ou ton message LinkedIn, elle est plutôt bienveillante.
À l'occasion de ce meet-up, tu nous l'as dit, tu as rencontré une ou deux personnes avec qui tu as senti vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous avez tout de suite commencé à échanger? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Bah dans les personnes qui ont participé au premier meet-up, il y avait un peu des routards du freelance, des gens qui faisaient ça depuis au moins une dizaine d'années, mais qui étaient plutôt sur un environnement tech, qui était sur de la communication, de la conception de sites internet. Et il y avait aussi des personnes qui débutaient, et notamment Jean-Baptiste qui à l'époque a participé au meet-up et qui venait de se lancer aussi et qui se posait un peu les mêmes questions que moi et qui avait un peu le même segment de clients, un peu le même positionnement. Et donc ça a tout de suite plus se fité avec lui par cette proximité de positionnement, quoi. Et du coup, on a gardé le contact et on en rediscutait un peu ensuite.
Et à quel stade vous vous êtes dit « on crée un groupe Slack » ?
Alors, je crois que c'est plutôt Sylvain qui a eu l'idée. Donc, Sylvain, c'est l'un des autres protagonistes qui n'est géographiquement pas d'ici, puisqu'il habite au Laos, il habite à Vientiane. Et lui, il est freelance maintenant depuis plusieurs années, mais il est cherbourgeois d'origine. Et donc, c'est un peu ça qui a fait qu'il a répondu à l'une des bouteilles à la mer que j'avais lancée. Et c'est plutôt lui qui a perçu l'intérêt de créer un Slack pour animer un peu la communauté. Lui, pour le coup, il avait quand même un temps d'avance. Il était freelance plus expérimenté que nous, que Jean-Baptiste et moi. Et il a vite perçu l'intérêt d'avoir ce type d'échange qui était un peu, qui ne se limitait pas à des échanges autour de la tech, mais plutôt discuter positionnement, comment on approche un client, quels sont les domaines sur lesquels c'est intéressant d'investir pour trouver des nouvelles opportunités de mission qui soient intéressantes.
Et est-ce que tu te rappelles de plus précisément de ces toutes premières conversations ? Toi, c'était quoi tes questions à l'époque ?
Bah, je pense que c'est un peu les mêmes questions que tous les freelances. C'est, c'est comment on trouve un client ? Pourquoi ? Est-ce qu'il faut vraiment se spécialiser ? Est-ce qu'il faut dire oui à tout ? Au départ, en fait, on fourmille d'idées, mais on cherche un peu. Et puis, on se sent pas forcément très légitime aussi sur certains domaines quand on se lance. Moi, ça faisait un moment que j'étais pas dans le dev et donc j'avais aussi cette question-là de conquérir une légitimité pour être sûr que j'apportais de la valeur aux clients avec lesquels je travaillais. Donc les échanges, ils étaient aussi là-dessus.
Aujourd'hui, tu m'as dit que vous étiez 5. Quand est-ce que donc les deux autres membres vous ont rejoint ?
Ça a été assez rapide en fait. Quelques mois plus tard, moi j'ai rencontré Michael, qui était aussi de la région, et lui je l'avais rencontré lors d'un réseautage aussi dans la région. Au départ, il était plutôt sur de la formation. Il avait bossé en ESN, enfin dans une boîte d'informatique, et puis il s'était mis à son compte plutôt sur le thème de la formation, mais il m'avait dit à cette occasion qu'il était intéressé par faire du dev. Et à un moment, l'opportunité s'est présentée de travailler ensemble sur un projet. Et c'est à cette occasion-là, du coup, qu'il a rejoint le Slack. Donc lui aussi, il avait une expérience pro précédente. Et puis, il était aussi sur un domaine un peu complémentaire lié à la formation, qui était aussi un thème que je trouvais intéressant aussi d'importer dans le groupe. Ensuite, il y a eu Alexis, qui lui est arrivé sur le groupe parce que je l'ai pris en stage. Lui, c'est un développeur junior. Je l'ai pris en stage après son DUT. Et maintenant, il fait sa licence pro avec moi.
Et est-ce que tu t'es senti tout de suite plus entouré, enfin, tu vois, ces échanges que tu évoquais réguliers que tu avais dans ta vie d'avant, est-ce que grâce à ce groupe, tu as comblé assez vite ce manque-là ?
En fait, les échanges qu'on a eus dans le groupe, rapidement, on a dit que ce serait sympa de faire des points réguliers une fois par mois, puis de faire une petite discussion un peu informelle, finalement une sorte de meet-up en visioconférence. Et en fait, à l'occasion de ces meet-up, on a tous vu l'intérêt qu'il y avait à avoir ce genre de discussion. Si tu veux, c'est pas tellement en compensation de quelque chose que j'avais vu avant, c'est plutôt en termes de valeur que ça apporte au quotidien de freelance par rapport à des questions que tu te poses ou au recul que tu as pas toujours le temps de prendre sur ton activité.
Donc tu me dis que ça t'aide à prendre du recul. Est-ce que tu peux me parler d'une situation récente où, sans vos échanges, tu serais encore le nez dans ton truc et un peu bloqué ?
Moi, j'ai eu un gros problème de positionnement au départ. Le dev, c'est immense. Tu peux faire plein de trucs. Tu peux coder des e-commerce, tu peux coder des applications métiers, des applications mobiles, enfin de l'embarqué, des objets connectés. Tu vois, c'est immense le domaine. Et en fait, en voulant être sur tous les fronts, tu es nulle part. Et moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a aidé au départ, c'est cette question de positionnement, de choisir un peu le type de prestation dans lequel tu vas apporter le max de valeur à ton segment de clients. Et moi, les échanges qu'on a eus dans ce groupe-là, ça m'a pas mal aidé là-dessus. Parce que c'est pas un exercice qui est si facile que ça, de renoncer à plein de trucs que tu penses pouvoir faire ou que tu aimerais faire, ou tu vois que tu as eu des sollicitations pour le faire, pour te concentrer sur un domaine particulier. C'est un peu contre-intuitif.
très concrètement, tu leur demandais leur avis dans le style « je pense faire ça, qu'est-ce que vous en dites ?» C'est sur ce genre de questions que tu as réussi à avancer, enfin, comment tu as abordé le sujet ?
En fait, il y a eu un peu deux étapes. Il y a Sylvain qui me disait, mais en fait, il faut te spécialiser et clarifier ton positionnement. Alors moi, il y a une première étape, c'est que je comprenais pas pourquoi il fallait faire ça. Donc il m'a expliqué et du coup, j'ai compris. Et ensuite, concrètement, il y a, ok, mais alors le positionnement, c'est quoi? Et c'est au travers des questions qu'on peut avoir ensemble, des questions un peu challengeantes quoi qu'on a. Mais je vais te donner un exemple précis. Sylvain, une fois, il m'a dit, est-ce que tu penses que de faire des sites internet, c'est vraiment ça que tu as envie de faire? Est-ce que tu vas pas t'emmerder à faire ce genre de truc? Où tu vas être en concurrence avec des devs offshore, où tu vas être en concurrence avec des boîtes de communication sur lesquelles techniquement tu vas pas t'éclater. Des questions où même si tu as des opportunités de mission un peu faciles, bien rémunérées, par des questions un peu, je dis challengeantes pour pas dire dérangeantes, mais t'as un père qui te remue un peu en te disant mais non, t'as pas du tout le profil de faire ça. Et évidemment que j'ai pas du tout le profil de faire ça, avec le recul, je le sais.
Ok, donc ouais, en effet, vous êtes très vite cernés les uns les autres.
On a appris à se connaître, on ne s'est pas vu que à distance. Hein, on a fait quelques rencontres un peu dans la vraie vie pour un peu, pour discuter un peu de nos vies respectives, de notre quotidien, de notre contexte de travail.
Donc, grâce à vos échanges, vous vous aidez mutuellement à prendre du recul. Est-ce que vous vous apportez d'autres choses? Est-ce que vous vous apportez du business en vous recommandant les uns les autres?
Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, aujourd'hui, mon plus gros client, je le dois à Jean-Baptiste. Oui, on a des sollicitations. En fonction de ton positionnement, il y a des trucs et de tes dispos, il y a des trucs que tu prends et des trucs que tu peux pas prendre. Et de pouvoir répondre à un client, ok, ça, je peux pas le prendre parce que c'est pas mon domaine ou parce que j'ai pas les dispos, mais je connais quelqu'un que je peux vous recommander, et même d'organiser la première rencontre un peu à trois pour amorcer la collaboration avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est un truc qu'on a fait et qui marche vachement bien, quoi. Et il y a aussi des projets sur lesquels on travaille à deux. Moi, je travaille avec Michael sur un projet pour un client, et puis je travaille évidemment avec Alexis sur d'autres projets. Donc, on a aussi des trucs qu'on prend à plusieurs et qu'on n'arriverait pas à faire si on était tout seul, en fait.
Et donc, tu m'as dit aussi que vous partagiez des contenus, vous partagiez vos veilles.
Ouais, ça fait aussi gagner pas mal de temps dans le monde de la tech, mais plus globalement, en tant que freelance, il faut quand même se garder un peu de temps, un, pour se former, et deux, pour faire la veille, détecter un peu les nouvelles tendances ou les nouveaux outils ou des bonnes pratiques. Et c'est vrai qu'on arrive à se partager ça et on alimente le Slack avec un peu le fruit de la veille de chacun, les newsletters ou les podcasts qu'on aime écouter. Voilà, ça fait aussi un petit système un peu de recommandation interne. On sait que quand c'est posté ou recommandé par l'une des personnes, c'est qu'elle y a vu une valeur et qu'elle estime que ça gagne à être connu par les autres personnes. Donc ça fait aussi une veille qualifiée.
Et est-ce que vous avez donné un nom à votre collectif ou ça reste incognito?
Alors, on a donné un nom et on a même trouvé un logo qu'on a rapidement abandonné, en fait. On avait l'idée d'appeler le collectif Iterate pour, sur le verbe itérer en anglais, parce que itérer, c'est un mot-clé dans le dev. On était content d'avoir trouvé ce nom, on était content d'avoir fait un petit logo. Et en fait, on s'est aperçu qu'on n'a jamais eu le temps ou finalement l'envie de communiquer sur un branding un peu commun aux cinq personnes. Mais je pense parce qu'on a des identités et on a des segments de clients qui sont différents. Donc, on n'a pas, je pense que collectivement, on n'a pas vu l'intérêt d'avoir de se fondre dans une sorte d'entité commune.
Est-ce que vous avez, en revanche, réfléchi à intégrer d'autres membres dans votre groupe?
Moi, je me pose régulièrement la question, parce que finalement, dans la vie de freelance, on rencontre plein de personnes. C'est ça aussi qui fait tout l'intérêt de ce métier. Au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est que parfois, déjà, on galère à aligner les agendas pour trouver une disponibilité pour faire un zoom d'une heure et pouvoir discuter ensemble une fois par mois. Moi, ce que je crains un peu, c'est qu'en augmentant ça, ce soit encore plus compliqué de trouver des créneaux sur lesquels tout le monde est dispo. Et puis, j'ai un peu l'impression aussi que ça risque de diluer un peu la densité des échanges qu'on a. Moi, je suis sur certains Slack, notamment pour du dev, où c'est des communautés où il y a 1000 développeurs. Et en fait, c'est assourdissant. Moi, j'ai beaucoup de mal à en retirer de la valeur. C'est ainsi intimidant de prendre la parole sur des trucs comme ça. La perspective, c'est pas d'augmenter beaucoup. Mais après, c'est un peu au feeling, quoi. Si on se dit qu'il y a des convergences de vues et puis des opportunités de travailler ensemble avec d'autres personnes, bien sûr qu'on l'invitera à rejoindre le groupe.
Est-ce qu'il se passe tous les jours des trucs sur votre Slack où il y a des moments où c'est plus calme?
Non, non, il ne se passe pas tous les jours des trucs. Des fois, il y a une semaine sans qu'il y ait un message de posté, hein, parce que, voilà, parce qu'on a aussi tous des activités qui sont assez prenantes. Et parfois, un sujet va engendrer une discussion un peu animée où c'est souvent le poste de quelque chose, d'une idée, d'une question qui déclenche un peu les discussions, en fait.
Est-ce que tu as l'impression que tout le monde est aussi impliqué dans l'animation de votre groupe et dans le fait que vous vouliez que ça dure ?
Non, tout le monde ne l'est pas au même niveau, mais là encore, après, c'est selon la valeur que chacun perçoit dans les échanges qu'il peut avoir. Il y a des personnes du groupe qui sont un peu plus en retrait parce que elles sont en mission de longue durée et puis elles sont accaparées par d'autres choses ou, si tu veux, il n'y a pas de questionnement précis ou juste le manque de temps, quoi, qui empêche de contribuer. Mais au final, moi, je trouve qu'il y a ce qu'il faut, en fait.
C'est quand votre prochain point mensuel ?
En fait, on en a fait un là il y a pas très longtemps. On en a fait un début février. On essaye d'en faire un par mois ou par mois et demi. Donc là, il n'est pas calé, mais ce sera probablement mi-mars, je pense. Fin mars, peut-être.
Si on se penche sur votre dernier point, c'était quoi les grands sujets de conversation ? C'est quoi vos discussions en ce moment ?
Toujours, on fait un petit tour de table où le point d'entrée, c'est quoi les missions sur lesquelles je travaille actuellement et c'est quoi les questions que je me pose. Au final, ça débouche un peu toujours, en tirant le fil, un peu toujours sur les mêmes questions autour du plafond de verre qu'on a quand on est freelance, ou comment on arrive à avancer, à découpler le revenu de son temps.
Et du coup, vous avez tous évolué à peu près au même rythme, puisque vous vous posez à peu près les mêmes questions, donc ça s'est passé comme ça ?
Oui, quand on regarde un peu où on en est, peut-être pour Alexis qui est plus jeune et qui est encore dans son alternance et qui va se lancer dans le freelance, qui a peut-être une vision différente, même si, mine de rien, il fait quand même des missions de freelance depuis un moment et du coup, son regard est quand même assez aiguisé. Mais c'est vrai qu'on en est un peu tous au même point, avec entre 2 et 5 ans de freelancing. Et on en est un peu tous un peu sur la même croisée des chemins, en regardant un peu c'est quoi la stratégie d'après, vers quoi on évolue, quoi.
Et est-ce que tu dirais que vous êtes devenu pote ou ça reste très pro ?
Ouais, je pense que c'est un peu entre les deux. Je dirais. Il faudrait que je pose la question, mais moi, je trouve qu'on est devenu pote, ouais.
Ils te diront ?
Ouais, ils me diront, ouais. Mais c'est marrant parce que on n'a jamais vraiment posé la question, mais pour moi, c'est un peu comme ça.
Alors maintenant, la dernière question. Est-ce que tu peux me parler de ton dernier kiff de freelance ? À un moment où tu t'es dit, ah, c'est quand même cool comme mode de vie et j'avais pas ça quand j'étais salarié.
Moi, ce que j'aime bien, et du coup, un kiff récent, c'est le retour d'un client que t'as catalysé, quoi, qui a franchi une marche, enfin, qui a fait un truc en plus, un service en plus, une fonctionnalité en plus, voilà, quelque chose lui a fait monter d'un cran grâce à toi. Je trouve que ce feedback là du client qui dit ah ouais c'est cool, j'ai pu faire ça alors j'y arrivais pas avant, ou j'ai eu cette idée que vous m'avez débloqué un truc, tu vois, un peu l'ostéopathe là, moi je trouve que c'est assez kiffant. Et même quand tu mets un junior sur la voie ou tu l'emmènes un peu hors de sa zone de confort et puis tu lui apprends un truc, j'aime bien ça.
Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous aussi, vous voulez faire partie d'un gang de freelance ? Peut-être est-ce déjà le cas d'ailleurs. Ou alors, est-ce que vous préférez d'autres formes de collaboration ? Racontez-moi tout ça en m'envoyant un message sur Instagram @lacohorte.podcast ou un mail à hello@lacohorte.fr.
Marine, t'es sympa, mais on n'a pas trop le temps de te raconter nos vies. Et puis à quoi ça sert, hein ?
Je vous entends relocher par-delà les ondes. Eh bien, laissez-moi vous dire 2 choses. Déjà, je réponds à tous les messages que vous m'envoyez. C'est grâce à ces conversations que j'apprends à mieux vous connaître et que je vous concocte des épisodes qui répondent au plus près à vos attentes. Deuxième point, vos idées sont riches, elles peuvent aider d'autres freelances à avancer dans leur cheminement. C'est pourquoi j'utilise cette précieuse matière pour écrire la New News. La New News, c'est la newsletter de la cohorte que j'envoie un vendredi sur 2. Dedans, plein de conseils et d'idées originales pour vous aider à développer sereinement vos boîtes. Si vous aimez le podcast, vous allez aussi adorer la New News. Pour vous abonner, filez sur lacohorte.fr ou jetez un œil à la présentation de cet épisode. Et vous me direz ce que vous pensez de la prochaine édition de la New News. Maintenant, le traditionnel récap. Voici les principaux points à retenir, selon moi, du témoignage d'Hervé. Petit 1, et si vous organisiez votre meet-up vous aussi ? Quelle idée géniale pour se constituer un réseau à la vitesse de l'éclair ! Alors, évidemment, en ce moment, pas simple de se retrouver dans un bar. Mais une bonne session en visio fait aussi très bien l'affaire. Petit B. Une fois que vous avez passé le stade des présentations, pensez à créer des rendez-vous réguliers pour renforcer au fur et à mesure les liens entre les membres de votre gang. Plus vous aborderez de questions concrètes, plus vous apprendrez à vous connaître. Petit C, pour qu'un gang fonctionne, n'importe quelle autre forme de partenariat d'ailleurs, avant de penser à ce que vous allez en retirer, il faut donner. Donner de votre temps, donner des avis, donner des conseils, partager votre veille, tout est possible. Dernier point essentiel, ne vous fixez pas d'objectifs trop précis pour votre gang. Laissez-vous surprendre. Quoi qu'il arrive, ça va être chouette. Dans le prochain épisode, on verra avec Émilie comment se créer un réseau d'apporteurs d'affaires. Je peux vous promettre que vous allez apprendre plein de choses. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, surtout, restez libres.